Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui au Collège de France Victor Stoichkita, dont vous rappelez certainement à l'occasion, à la fin de l'année Caravage, l'admirable exposé qu'il consacra aux anges musiciens du Caravage, avec aussi une belle animation de ce tableau par l'interprétation musicale de la partition. Et aujourd'hui, comme vous le voyez dans l'écran, nous parlons, Victor Stoichkita parlera, des paradis mystiques. Nous avons eu au commencement l'exposé de Victoria Sirlot, qui avait choisi de nous parler de la cité céleste de Hildegard von Bingen avec cette double perspective. Il s'agissait aussi bien d'une structure intellectuelle que d'une vision mystique avec ce prolongement final. Merci beaucoup. Dans le livre rouge de Jung. Puis nous avons eu une leçon qui certainement doit être placée du côté de l'élan intellectuel, le principe espérance d'Ernst Bloch. Tout ce que Dante contribue dans la réflexion de Bloch a formé dans une pensée au XXe siècle qui puise aux sources utopique au désir d'une amélioration de la condition humaine. Et aujourd'hui, donc, nous venons à l'autre thème, paradis intellectuel, paradis mystique, paradis artificiel, donc au thème des paradis mystiques. Victor Stoichkita est bien placé pour nous parler de ce thème, puisque, comme vous le voyez à l'écran, et je remercie son éditeur, M. Condominas, édition du Félin. Vous avez ici un exemplaire du livre. Ce livre, L'œil mystique, peindre l'extase dans l'Espagne du siècle d'or, vient de paraître aux éditions du Félin. Et c'est un livre important qui nous conduit à l'un des versants de l'activité de chercheur de Victor Stoichkita, c'est-à-dire cette tradition espagnole où il a, avec son épouse, travaillé des images et des traditions dont la force va de cette perspective mystique à, je dirais, au rêve, au cauchemar, à la mise en scène de Goya. Donc il y a toute cette tradition très important, Goya, Le dernier carnaval, c'est un livre qui a été donc travaillé avec Anna Maria Koderc, et c'est le premier, je dis le premier tout simplement parce qu'aujourd'hui nous parlons de ce volume, mais il faut ne pas oublier l'autre côté, toujours en partant cette fois de l'Espagne, dans l'exposition consacrée à l'ombre, la sombre de 2009 au musée Thyssen-Bornemisza, à cet autre élément, c'est-à-dire le fait que Victor Stoichkita pense au fait artistique dans l'ensemble de ses composantes. Il ne s'agit pas de prendre un tableau, de trouver l'auteur, de dire à quelle école ce tableau appartient, se pencher aussi sur les attributions. Il s'agit surtout, dans sa poétique, de voir l'instauration du tableau. Et c'est un livre qui a paru à l'aube des temps modernes, le sous-titre, chez Clinsic. L'instauration du tableau. C'est-à-dire le moment où cet élément qui peut être transporté, qui est muni d'un cadre qui va être mis dans les musées ou dans les maisons, transforme la perception de l'objet artistique, de l'image, une image qui, au Moyen-Âge, par exemple, était accompagnée le chemin du fidèle en entrant, quand il entrait dans les églises, dans les cathédrales, suivait le parcours des nefs, les histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'était une narration et il a fait un travail admirable pour nous montrer comment nous passons de cette narration à la possession d'un tableau. Ce qui change complètement notre lecture de l'objet artistique. Mais le cadre, l'instauration du tableau, ne sont que des éléments de cette lecture plurielle que Victor Stoïkit a fait toujours de l'image. Par exemple, vous avez ici, on pense toujours, surtout quand on se réfère à la peinture italienne de la Renaissance, au velature de la peinture vénitienne, tout ce qu'on ajoutait pour faire de sorte que la couleur soit plus brillante, plus vive, plus adaptée, etc. Eh bien, quand nous pensons aux couleurs, Victor Stoïkit nous trace une brève histoire de l'ombre. L'exposition à Madrid n'est que la continuation de cette réflexion, à savoir que dans un tableau, oui, vous avez les couleurs, vous avez les couches, vous avez le pinceau, vous avez la matière, etc. Mais aurait-on non seulement la dimension même de la perception, mais aurait-on de la couleur, des tableaux, etc., sans la présence essentielle de l'ombre? Et ce travail de Victor Stoïkit est tout à fait parallèle au travail de notre grand chercheur que nous avons eu le privilège d'avoir ici, qui est publié également aux éditions du Félin, Max Milner. Max Milner, lui aussi, dans la poésie, avait fait parallèlement à Victor Stoïkit à ce travail, et je me réfère tout particulièrement à son livre « L'envers du visible ». Là aussi, c'est une histoire de l'ombre. Et je voudrais terminer par un troisième aspect, je ne dis pas tout ce que Victor Stoïkit a publié, mais un troisième point qui est absolument essentiel, c'est-à-dire que même si dans sa perspective, le travail qu'il fait est un travail à part entière, donc comme vous l'avez vu, ce n'est pas tout simplement le tableau qui est pris en charge, néanmoins Victor Stoïkit sait très bien et pense toujours que le grand rêve des peintres, des sculpteurs, des artistes, non pas utiliser de la matière pour la transformer en matière, avec couleur, avec dessin, avec perspective, etc., mais faire de cela du vivant. Et l'un de ses grands livres, je dis tout simplement en parenthèse que tous ces livres sont publiés dans les principales langues. Alors vous pouvez trouver la première version d'un volume en anglais, puis cette version est enrichie en espagnol, puis elle est traduite en français, puis elle est traduite en italien, ou bien ça commence par le français, puis ça continue avec l'italien ou l'espagnol. C'est un Weltmann, un homme qui appartient à l'univers entier. Eh bien, dans son travail, l'un des éléments essentiels récents est l'effet Pygmalion pour une anthropologie historique des simulacres. Pygmalion est celui qui voulait créer, modeler quelque chose vivant. Et c'est dans cette perspective même que Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, et Zola ont travaillé. Il y a toujours ce rêve de faire quelque chose qui puisse devenir vivant. créer du vivant, donc l'effet Pygmalion qui arrive jusqu'au temps moderne et jusqu'au film est l'un des grands thèmes de Victor Stoichkita, qui n'a pas oublié non plus ses traditions et ses racines personnelles. Et donc, il a aussi publié sur la tradition de son pays d'origine, les traditions même musicales, ethnologiques, de la Roumanie. Il y a des livres, et là je terminerai, qui n'existent que dans une langue, soit l'anglais, soit l'italien, mais normalement tous les livres de Victor Stoichkita ont cette pluralité. Je citerai pour terminer un livre qui a paru à Nanterre par la Société d'ethnologie en 2008, Fabricant d'émotions, musique et malice dans un village tzigane de Roumanie. L'application à cette partie géographique si importante de l'Europe est essentielle, mais je retiens pour conclure ma trop brève présentation le titre « Fabricant d'émotions ». Je dirais que l'immense culture, l'érudition, la finesse d'esprit de Victor Stoichkita s'exerce aussi bien en interprétant les grands peintres, hein, les chefs-d'œuvre de notre tradition européenne, que dans une approche qui ne cache pas le fait que les arts suscitent du vivant, en passant donc par l'émotion. Et donc, là, nous avons un grand fabricant de savoir historique et d'émotion auquel je donne avec reconnaissance la parole. Merci.
Alors, je change de place. Merci beaucoup, cher Carlos Sola, de m'avoir invité, premièrement, et pour cette présentation si sensible, si profonde dans le livre que j'avais publié. J'apprécie beaucoup et j'espère de pouvoir répondre à vos attentes et aussi de m'intégrer dans le thème si intéressant, mais si difficile, hein, du paradis et notamment de la représentation des paradis mystiques. C'est pas facile. Il s'agit, il me semble, d'une entreprise assez difficile, donc celle de parler de paradis mystique dans les arts du baroque. Je me suis en effet occupé, mais indirectement, dans le livre que Carlos Sola vient de présenter, tout en étant conscient des défis que cette démarche comporte. Il y en a plusieurs de défis. Le premier, je dirais, et je vous montre deux images qui viennent du livre et qui se rapportent indirectement donc au thème de la vision de l'au-delà. Il s'agit d'une gravure anversoise de la fin du XVIe et puis d'un tableau probablement espagnol du XVIIe siècle. Je reviens tout de suite. Mais je parlais de ce défi de la représentation du paradis, de la vision mystique du paradis. Premier défi, il s'agit en effet du caractère intime, je dirais caché, de l'expérience mystique, auquel s'ajoute tout de suite son caractère irréprésentable, ou plus précisément aux limites du représentable. Et les deux images que je montre en parlent chacune à sa manière. Par exemple, dans la gravure de Virix, dans la gravure anversoise, on voit un carme à genoux dans un paysage. Il contemple une image encadrée de la Vierge à l'enfant qui se détache comme une vision, comme un tableau, donc comme une vision encadrée sur le fond d'un ciel nuageux. Il s'agit d'un tableau qui est en même temps une fenêtre ouverte vers l'au-delà. Vous voyez les nuages s'écartent et toute la lumière rayonne de cette grande lampe, de cette grande torche, comme si elle passait par le cadre. Le texte qui accompagne la gravure souligne justement ce que Saint Jean de la Croix, qui était le grand saint et immense poète des Carmes, niait, la fonction intermédiaire de la vision. Alors vous savez très bien que Saint Jean de la Croix représente, pour ainsi dire, le pôle aniconique de la mystique espagnole. Je donne une citation, « Tout ce que l'imagination peut se représenter, dit-il, ne peut servir de moyen approprié à l'union avec Dieu. » Il y a donc cette retenue vis-à-vis de l'image, vis-à-vis de la représentation, de l'imagination dans le contact avec le divin. Mais c'est une retenue relative. D'ailleurs, Max Milner, dans un autre livre, l'a très bien montré comment, même dans la pensée de Saint Jean de la Croix, cette retenue se nuance à un certain moment. Mais au premier moment, pour les Carmes, pour Saint Jean de la Croix, tant les visions que les images seront bannies de l'exercice contemplatif. Alors cette position extrême dans la question des images et dans celle des visions n'a pas trouvé un vrai développement important dans le sein de l'ordre. Mais on peut se demander à juste titre si Saint Jean de la Croix aurait aimé cette gravure. Je ne suis pas sûr, cela l'aurait intrigué peut-être. Je passe au second exemple que je choisis pour ouvrir un peu le débat. Cette représentation de Saint François, faite par un peintre provenant espagnol, le tableau se trouve en Belgique actuellement, donc ce peintre réalisa ce tableau au début du XVIIe siècle. On voit Saint François agenouillé à l'entrée d'une grotte à laquelle il tourne le dos afin de diriger son regard vers le ciel nuageux. Le dispositif de la grotte me semble extrêmement intéressant. Vous voyez cette grotte en bordure du cadre du tableau, comme si le spectateur lui-même se trouvait en dessin, donc dans la grotte, en accompagnant l'exercice mystique de Saint François. Devant le saint, vous voyez, se trouve un autel portant une croix. Il n'y a en effet qu'une seule direction dans cette image, celle qui, en suivant la diagonale qui part du pied de chaussée, du coin droit, du pied nu, va à travers les bras levés en redoublant une autre diagonale, celle de l'autel sur laquelle se trouve la croix. Il y a comme deux parallèles qui se rencontrent, comme le font les parallèles, seulement à l'infini. Question donc, que voit François? Ou mieux encore, voit-il quelque chose? Ou s'efforce-t-il seulement de voir? Ce qu'il voit, s'il voit quelque chose, se manifeste plutôt comme une absence de forme, comme une privation des qualités visibles. Moi, je dirais comme un rien. C'est un des grands thèmes de la mystique et de l'expérience visionnaire. En Espagne, un peu plus tôt, Sainte Thérèse, l'autre grande mystique espagnole, avait eu une expérience similaire, mais elle n'est pas seule. Je voudrais quand même donner une citation des récits visionnaires de Sainte Thérèse, parce qu'il y a beaucoup de thèmes très importants qu'elle touche, mais qui sont récurrents aussi chez d'autres mystiques. Alors Sainte Thérèse, en parlant de ses propres visions, dit à un certain moment, et je cite, « La gloire dont je me sentis investi ne peut ni se dire ni s'écrire. Et à moins de l'avoir éprouvé, on ne peut s'en former aucune idée. J'ai compris que tout le bien qu'on peut souhaiter se rencontrait là, et néanmoins, je ne vis rien. Il me fut dit, par qui je l'ignore, que ce qui était alors uniquement en mon pouvoir était de comprendre que je ne pouvais rien comprendre, et de considérer comme toutes choses ne sont qu'un pur néant en comparaison de ce bien invisible. Alors, il y a ici pratiquement presque tous les thèmes de l'expérience visionnaire qui touche justement au rien. Il y a toute cette rhétorique de dire ce qu'on a vu sans pouvoir le dire parce que pratiquement il n'y a rien et le discours est dépassé en effet par la force de ce rien qui devrait être parlé, mais on ne peut pas en dire rien. Alors, le tableau de ce maître anonyme que j'ai laissé sur l'écran représente, il me semble, par les moyens de la peinture, la même situation limite. Même si on change d'ordre religieux, d'ambiance spirituelle, mais c'est pour l'instant, et dans ce contexte, il me semble, peu important. Plus important, il me semble, et je viens un peu maintenant au thème qui est le mien, qui est celui de des difficultés, des défis qui se trouvent devant la peinture, de représenter ce rien ou cette limite du visible. Alors, ce qui me semble important, en accompagnant ce genre d'image, c'est le fait que les théoriciens de la peinture s'efforceront de donner un statut rhétorique à la représentation du sacré, par négation. Je voudrais vous donner deux citations. Une vient de Giglio da Fabriano, qui était un théoricien, disons, de la contre-réforme, très connu aussi à cause de sa polémique, de sa première prise de vue, position polémique vis-à-vis du jugement dernier de Michel-Ange. C'est la grande critique, justement, de ce cycle, de cette grande fresque de la chapelle Sixtine, faite par un esprit qui voyait là plutôt des hérésies que de quelque chose, donc, intégrable dans un canon, disons, de l'Église. Alors, Giglio da Fabriano, dans un autre écrit, parle de la représentation de Dieu, par exemple. Il dit le suivant, « Dieu est considéré comme invisible », et c'est cet aspect sur lequel je voudrais insister, sur la visibilité, invisibilité de Dieu et de la transcendance en général. Alors, Dieu est considéré comme invisible parce qu'il est esprit, et parce que l'esprit ne possède aucune forme. N'ayant pas de forme, il n'a pas de couleur, qui est l'objet de l'œil. Alors, vous voyez, il entre dans des problèmes, justement, de représentation et de visualité, couleur, etc., forme, couleur, l'œil, la vue. N'ayant pas de forme, il n'a pas de couleur, qui est l'objet de l'œil, mais il est simple et pur esprit. Ce que l'esprit est vraiment, personne ne le sait, à l'exception des anges, des bienheureux qui l'ont vu de face. Cette vision pourrait être représentée par un peintre, mais à part elle, il n'y a pas d'autre possibilité connue. Dieu étant, comme je l'ai dit, incorporel, invisible, inimaginable. Et je voudrais donner une seconde citation, peut-être plus concrète, qui vient de Cristoforo Sorte, qui est théoricien de la peinture, auteur d'un petit traité, Osservazioni della pittura, paru à Venise en 1580, où il parle entre autres de l'irréprésentabilité du sacré, en essayant de donner un statut propre à l'image visionnaire, définie dans son traité par toute une série de différences. Et je viens ici à un thème que Carlos Sol a déjà touché hier en parlant du paradis de Dante, cette altérité de l'imagination du paradis. Alors, cette fois-ci, en peinture, les choses deviennent claires et sont centrées justement sur un problème de représentation presque technique, je dirais, formelle et technique. Comment représenter la différence en peinture? Autre coloris, autre éclairage, autre perspective, donc toute une série d'altérités. Je donne la citation. Cristoforo Sorte, donc, je crois qu'il ne faut pas utiliser des couleurs fixes et trop matérielles, mais au contraire douces et suaves, aptes à représenter une substance surhumaine et la divinité dans son état pur et simple. En plus, il faut savoir que les choses divines qui apparaissent parfois sont toujours accompagnées par une splendeur pleine de grâce et baignées dans un jour très doux implique une perspective des lointains. Alors vous voyez comment il s'arrête sur des problèmes vraiment de technique de la représentation, implique donc une perspective des lointains qui reste inconnue à beaucoup de peintres parce qu'elle a besoin de plusieurs plans et plusieurs distances. Alors, il me semble qu'on peut détecter dans ce passage les éléments d'une, moi je dirais, d'une poétique de la représentation visionnaire centrée sur l'altérité de l'invisible visualisé. Le passage insiste sur les difficultés concernant la représentation du lointain mystique. Et il s'agit des difficultés emblématiques qui touchent, il me semble, le cœur de la poétique et de l'esthétique de la contre-réforme. Il faut relire ici le chapitre consacré par Gabriele Paleotti, qui était le grand théoricien de l'image à l'époque de la contre-réforme, donc le chapitre que Paleotti consacre aux origines des images, dans son Discorso intorno alle immagini sacre profane, qui est apparu à Bologne en 1582. Et je projette cette page fondamentale à côté de ce tableau. J'aurais pu montrer un autre tableau, mais je le laisse parce que je l'avais là déjà préparé. Il me semble qu'il puisse bien illustrer ce que Paleotti dit. Alors, il dit à un certain moment, en parlant justement des origines, de l'origine de l'image, il dit « Nous croyons que les origines de l'image se trouve dans le désir de représenter la ressemblance des choses et dans celui d'atténuer l'effet de l'éloignement. Alors, supplire al difetto della lontananza. » C'est un syntagme fondamental qui va nous accompagner, je voudrais bien, pendant le temps qu'on a à notre disposition. Donc, atténuer l'effet d'éloignement. Et cela non parce que les images ne pourraient servir également à la représentation des choses présentes qui se trouvent devant nos yeux, mais plutôt parce qu'elles viennent remédier aux inconvénients que nous subissons à cause des choses éloignées et séparées de nous. Alors, ristorare il danno che si patisce per le cose lontane e separate da noi. C'est ça, disons, l'enjeu de l'image tout court. Si elle avait pu être vue tout à fait aisément, il n'aurait pas été nécessaire de le représenter. Alors, vous voyez, il y a ici comme un glissement qui touche au fondement même de l'art, hein, représenter le lointain. Et je viens par là au thème qui, je voudrais bien qu'il soit le nôtre, donc les arts baroques et la représentation du paradis ou des paradis mystiques. Il me semble en effet que atténuer l'effet d'éloignement, donc supplire il difetto della lontananza, se trouve justement au centre de toutes ces problématiques. Je voudrais faire de ce point, ou de ce syntagme, donc atténuer l'effet d'éloignement, le centre de mes considérations. Il me semble en effet que les arts baroques, implicitement le paradis, en sont le fruit. Je voudrais offrir ici trois études de cas, deux cas italiens et un troisième espagnol pour bien pouvoir éclaircir les enjeux de la représentation picturale de l'effet d'éloignement. Alors, j'ai choisi ces trois exemples pour une raison précise. Ils proposent trois modalités différentes de visualisation du lointain en bousculant chacun à sa manière l'opinion concernant l'incommunicabilité des expériences mystiques. Donc, on est ici autour de ce problème de l'incommunicabilité, mais qui devient communicable d'une façon paradoxale à travers la représentation. Alors, premier cas. La coupole, la décoration de la coupole de Sant'Andrea della Valle à Rome, 1625-27, faite par Giovanni Lanfranco. Quelle expérience pourrait être plus significative pour les enjeux de l'effet d'éloignement qu'une coupole baroque. Et il s'agit sans doute d'un paradoxe, quoi de plus public, et donc apparemment de moins intime qu'une coupole baroque, qui décore une église où la communauté se rassemble. Donc entre le caractère intime et le caractère commun de l'expérience, il y a néanmoins un chiasme. Et d'ailleurs, les premiers commentateurs de cette, pas la première, mais une des premières coupoles baroques de Rome importantes, un des premiers commentateurs, qui est Gian Pietro Bellori, auteur des Vies des peintres modernes, qui parut dans la seconde moitié du XVIIe siècle, mais où il met ensemble tout ce qui se passe à Rome, mais pas seulement à Rome, dans l'époque, donc dans le XVIIe siècle. Donc Gian Pietro Bellori le souligne d'ailleurs dans une page assez fameuse que je voudrais lire et commenter avec vous. Donc pour être clair, pour vous donner un repère, Gian Pietro Bellori, donc l'auteur qui a comme ambition de d'écrire la continuation, si vous voulez, du grand livre de Vasari, Les Vies des peintres, qui s'arrête avec Michel-Ange. Bellori se pose le problème de la peinture dite moderne. Il fait des échelles de valeurs. Il est le grand, peut-être pas ennemi, mais le grand il est contre la peinture du Caravage. Alors la peinture du Caravage, le réalisme caravagesque, pour lui, c'est pratiquement, et ce n'est pas le seul, ce qui ne doit pas faire partie justement du système des beaux-arts ou des arts, en effet. Et puis, il est par contre un ami d'autres façons de s'exprimer en peinture. Alors, Bellori. Cette ekphrasis est fameuse et pose d'emblée plusieurs problèmes. C'est la raison pour laquelle je pensais de m'arrêter de parler donc de cette décoration de Lanfranco est tellement importante par le filtre d'une description plus ou moins contemporaine. La raison est la suivante. Alors, vous le verrez tout de suite, je vais commenter quelques passages. La description est assez longue, elle occupe deux ou trois pages, je ne vais pas la lire en détail. Ce qui me semble important, c'est qu'elle pose au second degré le problème de la description et de la représentation. Donc, ce que Bellori fait, il regarde la coupole, il la décrit en décrivant pratiquement, mais au second degré, ce qu'on ne peut pas décrire. Une représentation de quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel. Donc on a ici un exercice de rhétorique et d'écriture, disons, du genre description picturale, mais qui se place en parallèle avec un problème beaucoup plus complexe. Alors, il commence en décrivant donc ce qui se trouve au centre de la représentation. Il s'agit de la Vierge sur les nuages. La Vergine alzata soprontono di nubi. Il faut tenir compte aussi du fait, j'anticipe un peu, mais c'est fondamental, du fait que cette description joue jusqu'à un certain point seulement avec ce que je montre, parce que moi je montre une image fixe, prise d'un point de vue unique. J'aurais pu aussi montrer plusieurs points de vue, à un certain moment j'ai montré encore un ou deux, mais vous verrez comment dans la description de Bellori, il s'agit d'un œil, d'un spectateur, privilégié sans doute, parce qu'il comprend beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui a tout l'exercice de la compréhension de la peinture, mais c'est un personnage qui bouge, qui est dans l'église, et il bouge, il regarde difficilement. Alors, il n'est pas le seul d'ailleurs qui... Dans une église baroque, vous l'avez tous eu cette impression, c'est difficile de regarder. Bon, on regarde une minute ou deux, et puis on se repose. On regarde encore une fois, on bouge. Alors vous verrez comme cet itinéraire est fondamental de tous les points de vue. Du point de vue de l'exercice religieux, du point de vue de la contemplation, et aussi du point de vue de la description. Alors, il voit la Vierge représentée au centre, « tirata e rapita dalla divinità », donc comme dans un raptus, donc prise par la divinité, absorbée pratiquement vers le Fils qui l'attend dans la partie supérieure. Alors, il décrit dans un second moment le Fils, on le voit à peine, dans la lanterne qui l'attend avec les bras ouverts. Et puis, il y a la description de tous les personnages, ou des personnages les plus importants qui se trouvent dans les nuages qui occupent cette coupole. Le premier qui est nommé, Fra le Candi de Nubi, donc dans les nuages, c'est Saint-Pierre, donc celui qui ouvre le paradis, qui a les clés du paradis. Après ça, il y a toute une autre série que je ne cite pas maintenant. Il y a les deux André, Saint-André et le bienheureux André, sans doute à cause du fait qu'il s'agit d'une église consacrée à Saint-André. Il y a d'autres. Et puis, à un certain moment, il parle d'Adam nu. C'est difficile de le voir ici, mais encore une fois, l'exercice d'arriver à Adam à travers le ciel qui s'ouvre, à travers les clés de Saint-Pierre, etc., c'est un exercice pluriel. Il voit donc Adam, important parce qu'il représente l'antipode, disons, de la Vierge. C'est un renvoi à la faute primordiale que la Vierge, dit-il, à travers la naissance miraculeuse, aurait réparée. Antica colpa riparata dal parto di Maria. Et puis il y a les apôtres, les différents apôtres, et puis tous ces apôtres et tous ces personnages se trouvent dans ce qu'il appelle, je pense l'avoir souligné, au moins j'ai eu, oui, dans la partie, dans la seconde partie, ils se trouvent dans le paradis, à travers les splendide nubi, vous voyez, in lieta harmonia e gloria di angeli. Et puis, il y a un passage à travers cette description donc, de la gloire des nuées, hein, un passage vers ce que j'appellerais l'aspect, donc un passage du visuel vers l'acoustique. Il punto in cori di giovinetti, donc les anges dans un cœur qui semble chanter. Il voit aussi, il semble entendre, canti, flauti, violi, timpani, vari musici. Donc le visuel se transforme dans une synesthésie, disons, qui ouvre à l'esprit sans doute le sens de l'écoute de la oui. Et puis il revient dans la toute dernière partie de l'ekphrasis au problème de la visibilité. Donc il y a cette ultima luce, donc la lumière, avec les chérubins, mais encore une fois la musique, la melodia celeste nel silenzio della pittura. Donc la peinture est muette, la mélodie imaginaire accompagne donc cette peinture muette. Vers la fin de cette page, je vais passer tout de suite à la suivante, il s'arrête pour la première fois d'une façon explicite sur le nom du peintre, Lanfranco. Donc, qui a fait tout ça? Il s'agit d'une représentation, c'est ça qu'il veut dire. Donc, Saint-Pierre, les nuages, cette vue dynamique, la musique. Lanfranco, c'est lui. Usò un molto raro artificio. Maintenant, c'est l'artiste qui met en marge son talent. Ses astuces, je dirais même. Usò un molto raro artificio perché la gloria, terminando in quel chiarore di luce, per accrescere la forza, il rilievo, je passe. Ouais. Con la contrarietà degli oscuri oppose nel giro dell'anternino un festone in alto. Donc ici, on entre dans les problèmes de représentation, le talent du peintre, hein, qui a mis en place ces rares artifices, donc ces astuces, à travers la mise en scène dans l'espace de la coupole jusqu'à lanterne, toute la possibilité de suggérer à ce spectateur mobile qui tourne et se retourne sur lui-même. Il lui montre en effet la voie pour arriver justement au centre de la représentation. Encore une fois, il revient sur cet artifice, donc c'est un mot qui se répète plusieurs fois et qui culmine dans la gloriosa humanità di Cristo dipinto nell'anternino. Il y a un retour dans cette partie sur des problèmes de représentation picturale. Il reprend ce parallèle entre représentation picturale et illusion musicale vers la moitié de la page. Il parle en effet de rilievo dei corpi, insomma unione delle parti e senza divisione. Donc la façon de représenter les corps qui se trouvent dans cet espace paradisiaque. Et tout de suite après, encore une fois, le parallèle avec la musique, on dit con ragione, questa pittura è stata rassomigliata a una piena musica, quando tutti tuoni insieme formano l'armonia. C'est un topos, sans doute celui de l'harmonie musicale qui se superpose à l'harmonie picturale visuelle. Mais il revient justement sur le rapport entre la voix et le cœur, je dirais. Mi piace il misto, e l'universale misura e tenore del canto. Et puis, tout de suite, le motif de la distance. Et siccome in questa sorte di musica si richiede all'orecchio una maggiore distanza, c'est le grand motif donc de l'effetto di lontananza, una maggiore distanza, così il colore, donc de la même façon, la couleur, così il colore lontano si unisce e riesce suavissimo all'occhio. Donc il y a une perception presque musicale de l'œil à travers l'harmonie de la couleur. Ne tralasceremo di annotare un altro effetto dell'arte. Il insiste donc. On parle de Lanfranco ici, donc du peintre et de sa capacité de représenter. Il parle donc d'un altro effetto dell'arte, la quale dilatandosi da basso un poco spazio amplissima la vista. Maintenant, on est vraiment dans il touche un problème fondamental dans la décoration baroque des coupoles, donc l'emplacement dans l'espace. Donc l'architecture, la perspective, la peinture, la diminution perspective, il la décrit très bien, mais vous voyez qu'il, moi je dirais, il invente aussi, en le faisant, son propre langage de critique d'art. Hein. Il doit décrire quelque chose difficilement descriptible, hein. Cette coupole. Hein. Alors il invente son propre langage de critique d'art en s'adonnant à cet exercice de description. Alors, quando poi si accende al di sopra la pittura di vicino, la cupola si impiccolisce e diviene angusta. Et puis il suit en effet avec le problème de la perspective des proportions, de la diminution en perspective. Donc il parle, n'oublions pas, il s'agit d'une très belle page au sein d'une vie de peintre, Lanfranco, qui faisait partie d'un grand cycle des peintres qu'il appelle modernes. Donc c'est sa contribution donc, à l'art, disons, moderne. Mais tout de suite après, c'est le passage sur lequel je voudrais maintenant m'arrêter un peu plus, tout de suite après avoir parlé du problème de la perspective, des proportions, de la diminution, architecture, peinture, etc., il dit le suivant. Toutes ces figures, dit-il, sont très bien proportionnées, sono molto bene esposte, sont très bien exposées, donc toutes ces figures dans les nuages. Sopra i Vangelisti del Domenichino, Et maintenant, je voudrais expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit de quelque chose de très important. Il s'agit de l'enjancement de la coupole, de la décoration de la coupole, dans l'ensemble de l'Église. Dans les pendentifs, il y a les quatre évangélistes qui ne sont pas l'œuvre de l'enfant encore, sont l'œuvre d'un autre grand peintre de l'époque, Domenichino. Alors, il s'arrête justement sur la façon dont l'espace se crée par enjancement de l'architecture, les pendentifs qui supportent la coupole peinte par Lanfranco, et dans les pendentifs, les quatre évangélistes dus à un autre peintre, Domenichino. Je reviens tout de suite à la description de Bellori, mais avant de le faire, je voudrais quand même mentionner très brièvement, on entre ici dans un grand topos de l'histoire de l'art. Il s'agit de la concurrence entre ces deux peintres, Domenichino et Lanfranco, qui auraient travaillé ensemble, mais en se détestant, dit-on, cordialement, pendant les ouvrages, aussi à cause du fait qu'ils représentaient deux écoles, deux styles différents. Il y a beaucoup d'anecdotes postérieures, même des échafaudages qui seraient d'une certaine façon ébranlés à cause des intrigues l'un de l'autre, mais on est dans l'anecdotique pure. Ce que Bellori fait, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, et d'ailleurs, c'est un élément qui a été bien mis en lumière récemment par un très beau livre consacré aux décorations de la Rome baroque, celui de David Gans. Il montre en effet que, sur la base de Bellori, même si Bellori est fondamental, peut-être que Gans ne le cite pas assez profondément comme il fallait, mais le livre reste très important. Il s'agit plutôt d'une collaboration. Il s'agit donc d'un contraste des deux manières, de deux artistes, mais aussi de deux modalités picturales qui, au lieu de se placer en antithèse, collaborent à l'agencement de la décoration de la coupole, donc de l'impression de ce paradis qui s'ouvre vis-à-vis du spectateur. Alors, je voudrais être un peu plus clair. Mais je lis avant tout ce que Bellori dit. Donc, il dit qu'à cause donc, des raccourcis, l'iscorti, les distances, et à cause des distances, cette coupole est très bien placée, dit-il, sur, al di sopra, l'Evangelisti di Domenichino, i quali, essendo più terminati e diligenti, e più vicina all'occhio, la gloria di sopra meglio si diffonde in lontananza nella commodulazione del tutto. Donc, à cause du fait que les évangélistes de Domenichino sont représentés dans un autre style, avec un relief plus clair, avec une autre modalité de représentation, il sert d'enjancement, donc de passage de l'œil du spectateur vers ce qui se trouve dans la partie supérieure. Et il dit tout de suite après, rapisce certamente al cielo l'armonia di così stupendo dipinto e nel mirarlo trascorre per l'ampia mole non mai stanco l'occhio e il pensiero. Il s'agit en effet d'un travail commun de l'œil du spectateur qui, à travers le travail de Domenichino, passe donc et ouvre la voie vers la contemplation de la coupole. Alors, pour éclaircir un peu ce point, moi je dirais le rapt du spectateur qui se promène dans l'église, qui s'adonne à l'exercice qui plus tard sera l'exercice de Bellori, de perception, description, ce rapt du spectateur est facilité par l'agencement des figures et surtout, au premier niveau, par la façon dont les évangélistes sont représentés. Alors, je montre peut-être la figure de l'évangéliste qui me semble la plus importante. J'ai essayé dans la présentation de suggérer en effet de quoi il s'agit. C'est l'évangéliste Saint-Jean, par exemple, dans un des pendentifs. Et c'est l'évangéliste qui si je vois bien, a le rôle primordial dans cette stratégie donc, d'unification des niveaux. Alors, vous le voyez sur un nuage, dans une position de rapte mystique, les yeux vers le ciel. J'espère que vous pouvez suivre donc, à travers le détail la façon dont il agence l'espace de l'Église à travers la thématisation du regard, la vue qui s'ouvre. Les autres évangélistes, au contraire, ils regardent pour la plupart vers le bas. Ils sont aussi des figures très importantes, mais d'agencement à l'envers, si vous voulez. C'est Saint Jean qui est, à mon avis, celui qui ouvre en effet la voie au spectateur. Donc le spectateur qui entre dans l'église doit tourner, se retourner, regarder. Et puis à un certain moment, il arrive et en contemplant, et à cause du fait, comme Bellori le dit, de la façon beaucoup plus claire de la représentation de cette figure de relais, je dirais, il arrive à révisualiser et à entrer, disons, dans un mécanisme de perception. Mais regardons un peu comment Saint Jean est représenté, les bras ouverts. J'aime beaucoup cette plume, vous la voyez dans la main gauche, avec trempée dans l'encre. On peut peut-être le voir, mais l'encrier tenu par un ange, il y a une certaine distance. Donc il y a un ange, vous le voyez, avec un encrier. Lui, il tient la plume, il regarde. De l'autre côté, il y a le support de l'écriture, de l'autre main. Donc là, il y a une scénographie de la contemplation, de l'écriture, du regard. Donc c'est vraiment un nœud en ce qui concerne la représentation scripturale par écrit, par vue, par vision. Et c'est dans ce jeu que le spectateur, d'entrée, se laissait transporter vers la coupole. On a ici, d'une façon assez complexe, tout ce problème de l'individu, donc du contemplateur seul, isolé dans l'Église, qui regarde, mais aussi membre d'une communauté. Il est seul, mais pas être tout à fait seul. Expérience personnelle, expérience collective, expérience dirigée à travers la mise en scène de l'écriture, de la vision, et de la peinture. Je voudrais maintenant donner un second exemple d'effet d'éloignement. Alors, vous vous rappelez de ce soupir al di fetto della lontananza. Ça, c'est une autre église baroque romaine très connue, Sant'Andrea al Quirinale. On est dans la seconde moitié du XVIIe siècle, église construite par le Bernin. Et Bernini fut aussi, on est vers la fin de cette glorieuse carrière du Bernin, il fut aussi celui qui avait contrôlé toute la mise en scène de la décoration picturale, sculpturale dans sa propre architecture. On a ici un extraordinaire exemple de ce que Baldinucci, un des biographes de Bernini, appelait le bel composto. Donc cette union entre architecture, peinture, sculpture, décoration. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, que cet ensemble a été étudié par plusieurs collègues historiens de l'art, Evig Levin, Primasberger, Giovanni Carreri, et aussi David Granz dans son dernier livre. Alors, quelques données avant d'entrer dans des détails descriptifs. Ce que vous voyez, c'est l'autel, la peinture d'autel, peinte par Guglielmo Cortese, dit aussi Guillaume Courtois, sous le contrôle du Bernin, sans doute. Les stucs sont de Antonio Raggi, élève du Bernin. Carreri, qui a consacré une très belle étude dans un chapitre de ses livres, montre en effet comment dans cette église, qui était une église des jésuites, il s'agit en effet, c'est sa thèse, je suis tout à fait contraire, d'accord avec lui, d'un itinéraire initiatique des novices jésuites. Je vais revenir tout de suite sur cette idée. Mais quant à moi, je voudrais plutôt entrer par un autre biais et montrer en effet, en mettant ensemble, je vous montre une autre vision de Sant'Andrea della Valle, de le mettre en parallèle avec ce que dans cette église de Sant'Andrea della Valle, Domenichino et puis Lanfranco avaient fait dans la première moitié du siècle. Alors, pour bien comprendre toute cette question, il faut, il me semble, revenir aussi aux sources iconographiques et qui sont tellement importantes dans la décoration, dans toute la conception de l'église, qui est d'ailleurs une église avec un plan, disons, ovale, mais centré sur le motif de la croix de Saint-André, donc la croix en forme de X, ça fait partie du plan de l'église. Et puis, dans la décoration de la peinture d'autel, vous voyez le martyr de Saint-André qui se trouve d'un côté au niveau narratif, encadré par le cadre du tableau d'autel, mais repris, disons, inclus à travers toutes les stratégies du bel composto, dans la gloire qui s'ouvre, dans la lumière, dans l'espace architectural. Mais pour bien comprendre ce que le Bernin et ses élèves ont fait, me semble qu'il faut revenir au thème du martyr, de la mort des martyrs et du rapport des martyrs avec le paradis, avec le ciel qui s'ouvre. C'est un des thèmes récurrents et fondamentaux dans toute l'iconographie des martyrs, tellement importante dans l'art de la contre-réforme. Donc, après Émile Malle, qui a écrit des pages encore très actuelles sur ce thème, on le sait, on l'a répété et on pourra toujours l'approfondir. J'insiste un peu sur la scène du martyr de Saint-André, telle qu'elle est décrite dans la légende dorée de Jacques de Voragine, parce que probablement il s'agit encore de la source première de ce tableau. Alors je vous rappelle, Saint-André est suspendu à la croix, sur la croix, mais il y reste deux jours, si je me rappelle bien, dans une situation tout à fait difficile à supporter, mais avec le courage typique des martyrs. Pendant, dit Jacques de Voragine, pendant deux jours qu'il y vécut, donc sur la croix, il prêcha à 20 000 hommes qui l'entouraient, jusqu'à un certain moment que toute cette foule qui est autour de lui protesta. Donc il faudra quand même libérer, c'est un homme saint, etc. Et lui, il proteste de la croix, donc après deux jours d'incroyable douleur, il dit « Non, moi je veux rester sur la croix, je veux mourir sur la croix. » Déjà, et ça c'est, il me semble très important, « Déjà en effet, dit-il, je vois mon roi qui m'attend, donc je vois le ciel qui s'ouvre, qui m'attend, et comme on voulait le délier, on n'est pu y parvenir parce que les bras de ceux qui essayaient de le faire devenaient paralysés. » Pour André, comme il voyait que le peuple le voulait délivrer, il fit cette prière sur la croix, comme le rapporte Saint-Augustin dans son livre de la pénitence. « Ne permettez pas, Seigneur, que je descende vivant. Il est temps que vous confiez mon corps à la terre, car tant que je le portais, tant j'ai veillé à sa garde. J'ai travaillé à vouloir être délivré de ce soin et à être dépouillé de ce très épais vêtement. Je sais combien je le trouvais lourd à porter, redoutable à vaincre, paresseux à enflammer et prompt à faiblir. Vous savez, Seigneur, combien il était porté à m'arracher aux pures contemplations, comment il s'efforçait de me tirer du sommeil de votre charmant repos. Toute et quante fois il me fit souffrir de douleur, chaque fois que je l'ai pu, père de bonheur, j'ai résisté en combattant et j'ai vaincu avec votre aide. C'est à vous, juste et pieux rémunérateur, que je demande de ne plus me confier ce corps. Donc, il veut se séparer du corps. On entre dans une thématique très ancienne. Hier, on a appris des choses très importantes, justement, sur ce rapport âme-corps. On est ici au moment de la séparation de l'âme du corps, de ne plus me confier à ce corps. Il veut se séparer de son corps, mais je vous rends ce dépôt. Confiez-le à un autre et ne m'opposez plus par lui d'obstacles. Qu'il ne soit conservé et rendu qu'à la résurrection, hein, afin que vous retiriez l'honneur de ses œuvres. Confiez-le à la terre, etc., etc. Ce qu'on voit dans l'Église et dans la décoration, dans ces stratégies du bel compost, vous l'avez peut-être perçu déjà. Donc, il y a dans l'espace de l'autel la représentation du martyr. On voit même la main de celui qui veut le délivrer. On est du côté gauche qui est paralysé, il n'arrive pas à le faire. La partie supérieure du corps de Saint-André est déjà entouré par cette lumière. Vous voyez cette lumière qui sépare presque déjà la partie inférieure de son corps, les jambes par exemple, représentées dans une autre lumière, et la partie supérieure déjà entourée par des nuages, par la lumière, le ciel qui s'ouvre, un geste qui montre au-delà du cadre vers les stucs dorés qui font monter donc, le regard vers la lanterne. Si on regarde dans l'autre vue, donc la vue d'ensemble, on voit que toute l'architecture, et Giovanni Carrère l'a très bien montré dans ce livre, se plie à ces jeux. Et dans la partie supérieure du dispositif architectural de l'autel, le tympan se courbe, hein, et sur cette courbure, dans un nuage, apparaît une statue. Cette statue, c'est quoi? C'est un paradoxe. C'est le corps-âme, ou l'âme-corps de Saint-André, qui maintenant, par un passage très secret qu'on ne peut pas voir, à travers l'organisation, à travers le système, à travers le dispositif architectural lui-même, est passé de l'autre côté. Il flotte, mais c'est une sculpture. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce passage entre la peinture, ici, la polémique et le contexte est très complexe parce que le dialogue entre peinture et sculpture, c'est un des grands topoi du débat artistique, le paragone, etc. Et on a ici comme un renversement. Donc, la peinture narrative montre en effet la limite, disons, de la séparation du corps de l'âme du corps. Et puis on voit ce corps qui flotte, mais qui est tridimensionnel, ce corps qui est une âme. Donc on a une expérience du point de vue figuratif tout à fait exceptionnelle. Et c'est une façon, je reviens à ce point central de ce que je veux dire, c'est la façon très ponctuelle du Bernin de travailler sur le difetto di lontananza, donc en passant à travers le dispositif architectural, il passe donc d'un niveau de réalité, à un autre. Il y a encore une question à laquelle c'est difficile de répondre par l'acte de prise de vue photographique tel qu'on le trouve dans les manuels. Donc il faut être là, il faut être dans l'église pour bien comprendre, comme d'ailleurs dans l'autre église que j'ai analysée brièvement. Mais dans ce cas, les choses sont encore plus difficiles parce qu'il y a une transgression des frontières symboliques, mais il y a aussi une voie, moi je dirais une voie occulte, et secrète d'aboutir ou de bien comprendre comment ce passage s'effectue-t-il. Et par conséquent, la vue photographique est très difficile, moi je dirais aussi la vue contemplative, la vraie prise de vue est difficile parce qu'en effet, l'espace duquel on peut vraiment percevoir, par exemple, ce que André voit, sur la croix. Bon, on peut, par suggestion, le comprendre, mais il faut entrer dans l'espace de l'autel, et c'est un espace quand même sacré, c'est seulement des privilégiés qui peuvent entrer là pour pouvoir voir jusqu'à un certain point de quoi il s'agit. Donc la vue photographique est difficile, mais seulement des astuces, comme pratiquement, me semble, la prise de vue avec un objectif de 180 degrés peut nous donner une certaine impression. La voilà, par exemple. À travers ces astuces photographiques, jusqu'à une certaine limite, on peut entrer en synergie avec ce que le saint martyr représenté voit, jusqu'à un certain moment, je dis, parce qu'en effet, ce qu'on voit dans cette vision, c'est une vue double. On voit donc ce que le spectateur dans l'église voit, et puis on peut aussi combiner les deux vues, celle du virtuel, je dirais, de Saint-André sur la croix. Mais encore une fois, c'est clair que cet ensemble berninien a travaillé d'une façon très ponctuelle, extraordinaire, avec le difetto di lontananza, donc avec l'effet du lointain. Il y a sans doute, je reviens un peu au point de départ, il y a des différences entre le paradis secret, difficile, du Bernin et de son école, avec les grands concerts baroques de Lanfranco et Domenichino, tels que Bellori l'avait exposé. Mais ce sont les deux exemples que je choisis. On pourrait ajouter beaucoup d'autres, sans doute. Je les ai choisis aussi pour le caractère exemplaire. Ces deux tentatives sont des tentatives de dissecter autour de l'effet d'éloignement, donc par les paléotiques. Et je passe par là à la troisième solution, je l'avais promis au début, concernant le travail sur cet effet, celle offerte par un ensemble architectural, mais par des tableaux du XVIIe siècle. Avant d'opérer vraiment le passage, je reviens encore une fois aux deux images que j'avais montrées en ouverture de mon intervention. Je les montre encore une fois pour souligner plusieurs aspects qui deviennent maintenant peut-être plus évidents et qui nous seront aussi très utiles pour ce que je vais dire tout de suite. Par exemple, l'importance donnée dans les tableaux ou dans les gravures à unique personnage, par exemple, l'importance qu'on donne à ce personnage que j'appelais le personnage relais, hein, donc Saint-François ou le moine des Carmes, en effet, un personnage en état de contemplation, il est seul. L'importance du dispositif cadre, qui encadre justement la vision et la montre au spectateur lecteur, ou les éléments de cadrage. Je vous rappelle un peu cette entrée de la grotte. On se trouve dans une grotte et Saint François nous ouvre la voie vers l'ouverture du ciel dans lequel la vision apparaît. Le rapport entre la figure de relais et la saisie par le cadre de la représentation recouvre plusieurs modalités que je ne pourrais pas parcourir ici. Je montre deux exemples encore après m'arrêter sur cette étude de cas que j'avais promis. Je montre deux exemples pour me suggérer encore une fois la complexité du point de vue de la représentation picturale de la mise en scène, hein, de l'ouverture du ciel. Alors, deux exemples espagnols. Murillo à gauche, Zurbarán à droite, ils illustrent les deux la même scène. Il s'agit du miracle de la porcioncule. Hein. Saint-François, c'est une scène ayant un certain succès, surtout à l'époque de la contre-réforme. Donc saint François a la vision de la Vierge et du Christ sur un nuage. Ils entrent dans un dialogue, je n'entre pas ici dans tous les détails iconographiques, et comme témoignage donc, de ce dialogue, il y a donc un passage à niveau direct, donc les roses qui tombent des nuages et qui entourent le corps de saint François. Donc il y a ces signes concrets, disons, de la communication entre la sphère, entre la transcendance et l'immanence. Je montre ces exemples justement à cause du fait qu'il s'agit du même thème iconographique, mais représenté dans deux modalités différentes, tout à fait différentes, surtout par rapport à la mise en scène de cette figure de relais. Alors, le Saint-François de Mourillon, en diagonale, sur les marches de cet autel. Regardez encore ses pieds. Un des pieds touche le bord du tableau, l'autre avec la solme pas tellement propre, mais qui est un signe de réalité, en effet, de contact avec le sol. Et puis les bras ouverts entre l'espace, je dirais, du spectateur et la profondeur de l'image. Et donc un contact qui s'établit et qui invite le spectateur d'entrer dans l'image d'une certaine façon. Par contre, chez Sourbaran, le ciel s'ouvre aux yeux de saint François, ses yeux révulsés. Le spectateur se trouve, je dirais, dans une position de miroir plutôt, pas d'entrée dans l'image. Donc le spectateur doit comprendre, se confronter avec la vision de saint François et de comprendre par une sympathie de type miroir ce qu'il voit. Ici, les problèmes de la représentation picturale sont très complexes. Alors peut-être avec, si on s'imagine un spectateur tout à fait ignare des lois de la contemplation et de la représentation occidentale, quelqu'un venant d'une autre culture, il pourrait penser qu'est-ce qu'il se passe dans ce tableau. Donc il y a quelque chose sur la tête, donc c'est comme un Atlante, une cariatide qui transporte le ciel sur la tête. Donc il y a une certaine difficulté d'entrer à travers les yeux révulsés de saint François dans le mécanisme de la perception de quelque chose qui, du point de vue de la perspective, pose beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est autre chose. Donc, je montre seulement les exemples pour attirer l'attention sur la difficulté, plutôt, de représenter la transcendance dans un tableau et non pas dans une architecture coupole ou dans d'autres expériences, voire le bel composto berninien. Mais je voudrais m'arrêter sur un tableau. J'avais oublié de l'avoir monté un peu, justement, pour attirer l'attention sur la différence problématique entre la coupole de Lanfranco, le bel composto de Bernini, un tableau de jeunesse de Velázquez, le grand peintre espagnol, qui, encore à Séville, représente ce Saint-Jean, un tableau donc, de jeunesse. Il est daté habituellement vers 1618, donc à l'époque, Velázquez avait 19 ans, 20 ans, donc très jeune. Et c'est une œuvre, je peux vous la montrer maintenant, peut-être pour mieux la cerner. Elle est considérée d'habitude comme une œuvre un peu traditionnelle de ce jeune élève encore lié à l'atelier de Pacheco, qui était la grande figure qui dominait la scène artistique à Séville à l'époque. Alors le tableau, vous le voyez, focalise la figure de l'évangéliste qui, dans une pose inspirée, lève les yeux vers la vision qui surgit dans la partie en haut, à gauche. Il s'agit de la mulher amicta sole, donc de la femme enveloppée par le soleil, la femme de l'Apocalypse, attaquée, on le voit à peine, mais je reviens sur cette visualité difficile, la femme donc de l'Apocalypse, entourée par le soleil, attaquée par le dragon à sept têtes. Il ne s'agit pas d'une iconographie nouvelle, il s'agit seulement d'une élaboration nouvelle d'une solution très répandue aux Pays-Bas et que Velázquez aurait sans doute pu connaître soit à travers des gravures, soit à d'autres exemples. Je vous montre un tableau qui n'est pas dans un état parfait, vous le voyez très bien, d'un anonyme hispano-flamand du XVIe siècle, donc c'est justement la génération antérieure, mais c'est un tableau, en dépit de son état assez désastreux, au point de vue iconographique, on comprend beaucoup mieux de quoi il s'agit. Et on comprend aussi le passage opéré par Velázquez. Alors, le tableau anonyme de l'Escorial, par exemple, vous le voyez, il est divisé d'une façon beaucoup plus nette par une puissante diagonale. Dans la partie gauche, on trouve le visionnaire, Saint-Jean. Dans celle de droite, on voit la vision, la femme, le dragon, etc. Chez Velázquez, la figure de l'évangéliste occupe maintenant pratiquement tout le tableau, presque tout le tableau, tandis que la vision est reléguée à une extrémité. La figure est monumentale, donc celle de Saint-Jean, tandis que la vision est minuscule et presque illisible. Dès lors, si ce genre de tableau peut être, donc, je pense au tableau flamand ou hispano-flamand, peut être considéré donc comme point de départ de Velázquez, il importe davantage de se questionner à propos des raisons qui l'ont conduit à des changements si forts, si évidents, donc de amoindrir une partie et d'accentuer une autre. Et il me semble que la réponse est assez simple. Vous le voyez, Velázquez réduit la place de la vision. Et il le fait parce qu'il a eu la possibilité ou l'idée de la développer dans un autre tableau. Donc il y a en effet deux tableaux qui sont reliés chez Velázquez. Je montre encore une fois dans la partie supérieure, mais seulement pour avoir cette image en mémoire, ce qu'on faisait une génération avant et ce que Velázquez fait. Donc deux tableaux, Saint-Jean d'un côté et l'Immaculée Conception de l'autre côté, comme tableau. Mais il faut l'expliquer, il faut bien le comprendre de quoi il s'agit ici, dans cette opération du travail avec le tableau, justement, avec ce nouveau médium. Et c'est un hasard heureux, sans doute, que ces deux tableaux, qui proviennent les deux des églises des Carmes chaussées de Séville, se trouvent aujourd'hui dans le même musée, c'est-à-dire à Londres, dans la National Gallery. Et c'est on peut les comparer aisément et s'imaginer aussi l'effet qu'ils faisaient au moment de l'exposition primitive, et pas seulement l'effet de réception, mais aussi les enjeux de leur création en tant que deux tableaux. Et en effet, je ne connais pas d'autre cas où la vision de Saint-Jean à Patmos et l'Immaculée Conception soient représentées sur deux tableaux juxtaposés, en formant une sorte de diptyque. Et sans doute, cette juxtaposition doit avoir un sens. Ici, il y a aussi un problème assez épineux dans l'histoire de l'art et même dans l'histoire de l'exposition dans les musées. Comment exposer ces deux tableaux ? Saint-Jean à gauche et la Vierge à droite, ou la Vierge à droite et Saint-Jean à gauche. Maintenant, si je me rappelle bien et si c'est resté comme ça en place, c'est représenté gauche-droite, et je pense que c'est bien. Mais on a eu aussi des tentatives de les renverser, je pense que c'est mal. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi je pense tout ceci. Alors, personnellement, je vois dans ce double ouvrage le résultat de la confrontation de Velázquez avec l'un des plus grands problèmes de la figuration de son temps, qui m'a préoccupé aussi dans ma recherche, c'est vrai, le rapport entre vision et tableau. Alors, je reviens aux deux tableaux de ce pseudo-diptyque. En effet, ce diptyque ou ce pseudo-diptyque est une œuvre dédoublée, ayant comme thème, si je vois bien, le passage d'une représentation à l'autre. Alors, j'essaie d'éclaircir. Dans l'un des tableaux, donc, on voit Saint-Jean tenant sa plume en l'air. Ça aussi, l'art de l'écriture est ici thématisé d'une façon très fine. Écriture et vision, encore une fois. Saint-Jean, encore une fois. la plume en l'air, alors qu'il regarde une vision apparue parmi les nuages. Il tient sur ses genoux un livre ouvert, et l'on discerne, vous voyez, je pense, j'espère au moins, deux lignes écrites au début de la page de droite, hein, en ce qui concerne la position de Saint Jean. Le reste de la page ou des pages sont vierges et vierges, donc la page, les pages. On peut être sûr que ces pages sont celles du 12e chapitre de l'Apocalypse. Un grand signe apparut au ciel, une femme. On ne peut pas le lire, mais je suis presque sûr que cette ligne et demie qui se trouve donc tracée au niveau pictural montre en effet une partie de ce début de chapitre. Donc, un grand signe apparu au ciel, une femme. Le geste suspendu de l'évangéliste parle de lui-même. Ce que voit le spectateur, c'est l'acte visionnaire qui interrompt la rédaction du texte. Il ne peut plus écrire parce qu'il voit. L'important, ce n'est pas le texte écrit. Et le livre est là plutôt pour suggérer l'absence momentanée du texte. Ni même la vision, elle est si peu claire, vous le voyez, qu'aucun spectateur ne pourrait la déchiffrer complètement. J'ai un détail qui vous montre quelque chose de ces difficultés. L'important, c'est l'acte de vision et son médium, Saint Jean. Velázquez accentue face à ses modèles flamands, vous vous rappelez, la typologie de ce personnage visionnaire, surpris dans un moment de représentation. Je reprends et je résume, la vue ou la vision interrompt et dans un second moment provoque la représentation. L'Immaculée Conception, à droite, pendant de Saint Jean, est en effet la vision devenue tableau. Contempler une à côté de l'autre, voilà. Comme c'est le cas aujourd'hui, comme ce fut le cas probablement originairement, les deux toiles devaient sans doute donner la certitude que le grand signe de l'Apocalypse, donc la vision du volet de Saint Jean, se transforme en image de dévotion. Et l'écart entre la vision et le tableau n'aurait pas pu être souligné avec plus de netteté. Il a fallu ce ingénium, donc ce génie de Velázquez, pour aboutir à un tel résultat. Il s'agit d'une opération que j'appellerais la mise en cadre du grand signe et qui équivaut à un processus de clarification visuelle, mais aussi conceptuelle. Alors, vous voyez dans le tableau, la Vierge à droite émerge des nuages qui enveloppent la femme de l'Apocalypse. Le signe devient image à plein titre. On pourrait même dire que par ce passage, Velázquez a réalisé une extraordinaire mise en scène de toute une problématique du rapport entre la vision apocalyptique et la nouvelle image de la dévotion qui est l'Immaculée Conception. Je n'entre pas dans des problèmes ponctuels d'iconographie et de dogmatique, alors je rappelle seulement que le dogme de l'Immaculée Conception, c'est un dogme tardif, donc c'est un dogme qui a été accepté par l'Église seulement au XIXe siècle. Mais il y a toute une offensive portée en avant par des textes et par des images, surtout à l'époque en Espagne, mais pas seulement, qui essaie de montrer, de créer des appuis iconographiques. Le passage de l'Apocalypse à la prédiction de l'arrivée d'une femme sauveur, si vous voulez, est un des éléments le plus important. Et c'était un rapport donc qui, en Espagne et surtout à Séville, était à l'époque le thème d'un vif débat. Et d'ailleurs, le beau-père de Velázquez, Francisco Pacheco, qui était peintre plutôt médiocre, et ce fut son grand mérite d'avoir reconnu dans son jeune élève vraiment un génie, et même peut-être de le laisser partir à Madrid, dans les années 20, et la grande carrière de Velázquez va se dérouler à Madrid, en délaissant peut-être la thématique religieuse typique pour le milieu sévillan, et en devenant peintre de cour de Philippe IV, et puis avec le voyage en Italie, avec les contacts avec les peintures de Titien qui se trouvaient au Prado, se trouve aujourd'hui au Prado, qui se trouvait dans la collection royale, les contacts avec Rubens, donc d'enrichir sa palette. Mais pour le moment, Velázquez est dans l'atelier de Pacheco, qui sera son beau-père bientôt. Et Pacheco, d'ailleurs, qui était, peut-être qu'il est encore aujourd'hui plus important pour le traité qu'il avait écrit sur la peinture, publié après sa mort en 1647. Pacheco, il consacre une page au problème de l'Immaculée Conception du point de vue iconographique, mais avec des éléments qui touchent aussi le thème qui nous intéresse, donc image, représentation, passage d'un niveau à un autre. Je voudrais citer un petit passage de ce que Pacheco, donc le maître de Velázquez, dit dans ce traité, composé probablement à l'époque où Velázquez était dans son atelier, mais publié seulement après. Alors, il dit le suivant, cette image, et Pacheco donc parle de l'Immaculée Conception, « Cette image, comme les gens instruits le savent, s'inspire de la femme mystérieuse vue par Saint Jean dans le ciel et possède tous ses attributs. La peinture qui s'en inspire doit être tout à fait conforme à la révélation de l'évangéliste et doit donc la montrer vêtue par le soleil, un soleil ovale, ocre et blanc. Alors vous voyez le grand iconographe de Séville, c'est très bien, donc le soleil doit être ocre, blanc, etc. Je poursuis tout de suite, mais il faut aussi percevoir qu'on est dans le milieu justement de prescription d'une académie atelier. Base technique, conceptuelle et figurative pour ce que Velázquez va faire. Alors je reprends. Elle doit donc la montrer vêtue par le soleil, un soleil ovale, ocre et blanc, qui entoure toute l'image, unifiée subtilement au ciel, couronnée d'étoiles. Les étoiles doivent être obtenues à l'aide des taches claires, d'un blanc très pur, al secco, formant des larges rayons, sous ses pieds la lune. Et bien qu'elle soit un globe solide, je prends la liberté de la faire claire et transparente au-dessus d'un paysage, en haut, plus visible et plus clair, la demi-lune tournée vers le bas. Si je ne me trompe pas, je pense avoir été le premier à donner tant de majesté à ces détails, et les autres peintres m'ont suivi. Peut-être une petite flèche vis-à-vis du jeune Velázquez qui s'apprêtait justement de faire ce qui est sans doute une des formulations les plus intéressantes, beaucoup plus intéressantes, des tâtonnements même de Pacheco, qui a fait des Immaculées Conceptions, mais pas très complexes, pas dans des diptyques, pas avec des thématisations de passage comme Velázquez l'a fait. Ce que fait Velázquez n'est donc pas ou n'est donc qu'un développement pratique du discours théorique de son maître, mais un développement très profond. Si Pacheco théorisait le passage, Velázquez, quant à lui, le peint, c'est beaucoup plus important. L'existence d'un projet commun est concertée entre les deux, maître et élève, Pacheco et Velázquez, n'est pas à exclure. Alors, le spectateur attentif, et je reviens maintenant au problème du spectateur qui nous a accompagnés aussi dans les analyses que je vous ai proposées des deux ensembles baroques romains. Il faut toujours penser au rôle du spectateur et à son rôle actif, disons, dans l'agencement et dans la compréhension de ce que les images montrent. Le spectateur a donc le privilège, je dirais, d'assister indirectement à ce qu'on pourrait appeler même la fabrication d'une image. Cet acte de fabrication advient, si je vois bien, justement dans un entre-deux, dans l'interstice qui sépare ces deux volets ou ces deux pseudo-volets. le tableau de l'Immaculée Conception vient remplir, pour ainsi dire, le vide de la page blanche sur laquelle l'évangéliste n'a pas eu le temps de noter que deux lignes. Par exemple, un grand signe apparu au ciel. Le grand tableau de l'Immaculée Conception est, pour employer un terme de rhétorique, comme l'hypothypose de ce texte. Et je crois que le milieu académique de Pacheco, où on travaillait donc sur des problèmes de représentation picturale, mais aussi avec des problèmes de rhétorique, laisserait justement libre cette idée donc, de la mise sous les yeux du spectateur, de quelque chose donc, qu'on a l'impression donc, d'avoir justement en face de nous. Alors si dans le volet de Saint-Jean, on ne voit que le signe, dans celui de l'Immaculé, on voit la description qui est devenue tableau. Le texte écrit s'amplifie dans l'image picturale, la plume a cédé la place au pinceau et la toile peinte à remplacer la page blanche. C'est plus ou moins ça le mécanisme que me semble pouvoir déceler à un niveau interprétatif de cet exploit de Velázquez. Alors, je viens à la fin. Il me semble en effet qu'il faut tenir compte du fait qu'il s'agit des figures récurrentes. La figure de Saint-Jean, on l'avait déjà rencontrée dans un autre contexte. Je la montre encore une fois, ce Saint-Jean du Dominicain qui fait figure d'agencement, mais dans un autre ensemble, dans un autre contexte, dans l'ensemble monumental baroque, mais qui suggère l'immense espace creusé au cœur de la représentation baroque par la quête du paradis. Ici, il y aurait place pour dire beaucoup de choses, mais je ne voudrais pas trop abuser du temps et de votre patience. En effet, il s'agit, si je vois bien, pas seulement des coïncidences, donc les deux Saint-Jean, donc la même mise en scène de l'écriture, de la vision, de l'interruption, de la page blanche, du pinceau, de la plume, etc. Mais il s'agit de quelque chose de plus profond. C'est un hasard d'avoir choisi, au moment où j'ai préparé cette intervention, ces exemples. Il s'agit en effet de thèmes qui se correspondent, donc le thème de l'Assomption de la Vierge, donc de la montée de la Vierge en corps et en âme et en corps, vers le ciel, qui est le thème de Sant'Andrea della Valle, avec la coupole, est un thème qui se place en parallèle avec le thème de la descente de la Vierge, donc de l'Immaculée Conception, donc de la création de la Vierge dans le ciel et de sa descente sur terre, sine macula, donc sans aucune tache. Donc la descente de la Vierge et la montée de la Vierge sont des thèmes, disons, parallèles ou qui se correspondent justement aux opposés de tout un arc théologique et iconographique, mais je ne pourrais pas maintenant trop insister sur ce thème. Je reviens à Velázquez pour conclure aussi mon intervention. Il me semble que Velázquez effectue en effet avec les instruments du peintre de chevalet, de la peinture de chevalet, du tableau justement, un rapprochement vertigineux du lointain de la vision. Cette nébuleuse dorée, je ne sais pas si elle est ici, oui, signe presque indéchiffrable, est devenue une image mise sous les yeux du spectateur. Et il serait sans doute dangereux de voir ici uniquement les conséquences d'une démarche purement intellectuelle ou d'un jeu rhétorique plus ou moins gratuit. Il s'agit plutôt d'une solution sans doute très originale apportée à l'un des problèmes uniquement reconnus de la poétique de l'image sacrée. Et je ne peux pas m'arrêter de citer encore une fois en conclusion de mon intervention, de citer encore une fois Paleotti, les origines de l'image. Nous croyons que les origines de l'image se trouvent dans le désir de représenter la ressemblance des choses et dans celui d'atténuer l'effet de l'éloignement. Et cela non, Et cela non parce que les images ne pourraient servir également à la représentation des choses présentes qui se trouvent devant nos yeux, mais plutôt parce qu'elles viennent remédier aux inconvénients que nous subissons à cause des choses éloignées et séparées de nous. Si elles avaient pu être vues tout à fait aisément, il n'aurait pas été nécessaire de les représenter. Je m'arrête ici en vous remerciant pour l'attention. Merci.